Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous et bon réveil sur BPM, il est 8h03, bienvenue dans notre nouvelle émission Les Rendez-vous du Mantois, proposée chaque semaine le vendredi à 8h en direct. Et aujourd'hui, c'est le maire de Jambeville, Jean-Marie Ripart, qui nous reçoit. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour à vous et à tous vos auditeurs.
Merci de nous accueillir dans votre mairie de Jambeville. Avec vous, nous parlerons bien sûr de la rentrée scolaire et de la sauvegarde des classes dans votre école. Nous présenterons la fête du village qui aura lieu demain. Et puis, nous aborderons le sujet de mutualisation des moyens et de fusion entre les communes rurales. On commence donc par la rentrée des classes. Un petit mot sur comment s'est déroulée cette rentrée, notamment dans le contexte de crise sanitaire.
Une rentrée qui s'est très bien passée, qui aurait pu plus mal se passer, puisque il y a quelques semaines, si vous étiez venu, nous étions suspendus à une fermeture d'une des quatre classes de cette école, hein, qui en contient quatre depuis de nombreuses années, les conséquences auraient été énormes pour la commune, puisque trois classes avait pour conséquence un effectif de plus de 30 élèves, un directeur d'école sans décharge de fonction et surtout pour nous le licenciement d'une des ATSEM sur les deux que nous avons. Donc c'est vraiment le mot victoire qui me vient en tout cas à l'esprit pour cette école et cette rentrée. Le deuxième mot qui me vient, c'est la bataille, parce que cette bataille en tout cas pour maintenir cette quatrième classe, elle n'est pas terminée, puisque nous sommes suspendus aux effectifs chaque année, et donc une mobilisation est importante, comme elle a eu lieu en tout cas ces derniers mois, pour convaincre le DAZN des arguments pour maintenir cette quatrième classe. Et je me réjouis et je le remercie en tout cas d'avoir entendu nos arguments sur des effectifs, hein, qui ont heureusement augmenté au mois de juin pour maintenir cette quatrième classe, mais également je dirais les projections de nouveaux habitants que nous allons avoir par un lotissement qui est en train de se construire, et nous l'espérons une dizaine d'enfants nouveaux qui arriveront d'ici la rentrée 2022, ce qui permettrait définitivement de pérenniser cette quatrième classe. Vous savez, pour une commune rurale comme Jambeville de 850 habitants, un ville, en tout cas l'école, c'est plus qu'un équipement, c'est plus qu'un service, c'est l'âme du village. Si vous passez à trois classes, c'est quelque part un délitement, puisque les effectifs surchargés ou en tout cas trop importants vont amener très clairement des parents à mettre leurs enfants dans d'autres écoles et petit à petit arriver au bout de quelques années à une fermeture complète d'une école, ce qui serait dramatique pour un village qui perdrait clairement son attractivité pour pouvoir maintenir sa survie.
Alors, autre thème qui est important pour la commune, ce sont les transports. Le service de transport à la demande Tammy en Yvelines devient un transport à la demande Mantois. Et depuis le mois d'août, donc, Jambeville bénéficie de ce service personnalisé qui permet aux habitants de réserver leur trajet. Un véhicule vient les chercher à un point d'arrêt proche de chez eux et les dépose à un point d'intérêt du territoire de leur choix. Parlez-nous des bénéfices pour les habitants.
Vous savez, Jambeville, dans sa configuration géographique, est une commune isolée, un peu coincée aux frontières du département du Val-d'Oise. Hein, et comme j'aime à le dire souvent, quand on vient à Jambeville, c'est qu'on a quelque chose à y faire. Jambeville ne possède pas de maillage de transport en commun. Hein, il y a quelques lignes de bus, mais des lignes de bus scolaires qui fonctionnent le matin pour emmener les enfants au collège de Gaillon ou voire à la gare d'Adricourt, et le soir entre entre les deux, voilà, il n'y a pas de possibilité d'utiliser de transport en commun, et donc c'est la voiture qui est l'élément essentiel pour se déplacer, qui est obligatoire pour aller faire ses courses, pour aller emmener les enfants aux activités, ou voire même aller travailler. La gare la plus proche étant Hardricourt à 10 km. Donc vous comprendrez que ces questions de mobilité, elles sont essentielles. Et quand la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise nous a annoncé que Jambeville allait bénéficier de ce transport à la demande, parmi une extension de ce transport à la demande qui existe déjà depuis de nombreuses années sur des communes rurales du Mantois, nous pouvions que nous réjouir, parce que c'était vraiment une demande pour des habitants, pour pouvoir mieux se déplacer sur le bassin, sur le bassin Mantois et vers les Mureaux. Pour nous, c'est un élément essentiel. C'est une première étape, je dirais aussi, qui prépare l'arrivée d'Éole et le fait que c'est un enjeu aussi prioritaire du rabattement de nos villages sur les pôles gares qui seront actifs en 2024, en tout cas je l'espère. Et donc j'ai bien conscience que nous n'aurons jamais de lignes de transport régulière, parce que économiquement c'est compliqué, mais voilà, ce transport à la demande il participe à ça et je ne peux que m'en réjouir. Maintenant voilà, à nous de la commune de relayer le maximum l'information de ce service. C'est ce que nous faisons au travers le site internet, au travers l'application smartphone que nous avons mis en place depuis quelques temps, qui permet de mieux communiquer avec nos concitoyens, avec les habitants de Jambeville, voilà, et j'espère que d'ici quelques temps les résultats d'utilisation du service permettront que ce service soit pérennisé définitivement sur nos communes.
On va s'intéresser à présent à la crise sanitaire et l'impact que ça a eu pour la commune de Jambeville. Donc quelles sont les conséquences, notamment au niveau démographique? Il y a eu des changements.
Voilà, on a constaté un élément intéressant, en tout cas sur cette crise depuis un an et demi, c'est le mouvement de population nouvelle que nous constatons par les ventes de maisons qui ont explosé sur Jambeville ces derniers mois, et de nouvelles populations qui arrivent plutôt de l'urbain et que avec lequel nous réjouissons aussi puisqu'ils viennent avec des enfants, donc c'est aussi l'école qui en bénéficie. Mais voilà, c'est un élément qu'on a pu constater, un turnover en tout cas de la population, vous l'avez normalement, mais là il s'est accentué vraiment durant cette crise sanitaire, avec aussi un impact sur l'immobilier, puisque les prix de cession, en tout cas de la valeur des prix au mètre carré de l'habitation à Jambeville, a fortement grimpé.
On aborde à présent le thème de l'environnement. Pour la dernière édition du label national Villes et Villages Étoilés, l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne a annoncé au mois de mai la labellisation de 364 communes françaises, dont Jambeville, qui est l'une des deux villes yvelinoises à bénéficier de ce label. Vous avez obtenu une étoile. D'abord, rappelez-nous le concept de ce label.
Le concept de ce label, c'est en fait de lutter contre la pollution nocturne par des actions que pourraient mettre en place les collectivités, avec des degrés plus ou moins importants, qui permettent d'avoir une, deux ou trois étoiles par des actions d'abord par la collectivité elle-même, et ensuite de sensibilisation aussi des habitants pour diminuer cette pollution nocturne. Donc pour Jambeville, en fait, nous avions déjà il y avait déjà eu ce label. On a recandidaté en fait pour durer, en tout cas renouveler ce label. Des actions fortes qui ont été mises en place, en tout cas l'une majeure, c'est celle de la luminosité des candélabres qui s'arrêtent à 23 heures pour reprendre le matin. Donc qu'il n'y a pas sur Jambeville de lumière donc sur la voirie sur dans la nuit. Donc voilà, c'est une des actions. Maintenant, l'idée aussi sur les investissements que nous faisons sur le patrimoine, c'est de remplacer par des LED. Ou en tout cas, voilà, on recherche à chaque fois, on se pose la question de cette question de la luminosité dans nos actions. Et puis maintenant, la deuxième étape est celle de pouvoir participer et sensibiliser maintenant les habitants, voire les acteurs économiques comme le Château des Scouts et Guides de France, pour aller dans le même sens.
Justement, on reste dans les investissements. Quelles sont vos ambitions pour l'avenir ?
Alors, les ambitions, elles dépendent des moyens. Donc, on a une politique d'investissement à la hauteur de notre budget, hein, d'une petite commune. Mais depuis de nombreuses années, on essaye de mettre en place un plan énergétique de la commune. Ça a commencé en 2014, lors de mon premier mandat. Donc, on a fait faire un diagnostic énergétique complet de tous les bâtiments de la commune pour essayer de voir où étaient les priorités énergétiques. C'est bien entendu participer à l'effort de développement durable, mais c'est aussi un gain économique pour la commune, des moins de dépenses énergétiques de nos bâtiments. Et donc voilà, on a commencé par la rénovation complète de la salle des fêtes il y a quelques années, de l'isolation aux huisseries en passant par l'éclairage. On a continué avec un atelier technique que nous avons reconstruit et en ossature bois. Et là, maintenant, nous allons nous pencher sur la mairie et la rénovation énergétique de la mairie, dans laquelle on engage des demandes de subventions pour rénover l'intégralité par isolation de l'intérieur de la mairie d'ici, je l'espère, quelques mois.
On passe maintenant à l'agenda de la commune. Demain, c'est la fête du village à la salle des fêtes. Quel est le programme de cette journée ?
Le programme, il est cette fête va commencer en début d'après-midi. C'est une fête qui est consacrée beaucoup aux enfants, donc avec des activités essentiellement aussi pour les enfants, que ça soit des jeux gonflables, voilà, quelques tournois de pétanque et de foot, pour terminer le soir autour d'un repas et conclu par un feu d'artifice. Voilà, donc cette fête du village, c'est important, puisque avec la crise sanitaire, elle n'a pas eu lieu l'année dernière. Elle est attendue par beaucoup de monde. Elle est organisée par le comité des fêtes, hein, qui est une association de Jambeville. La municipalité participe au travers aussi du feu d'artifice. Donc, on se réjouit tous. Généralement, cette fête a lieu en juin, en raison de la crise sanitaire. Nous n'avons pas pu le faire, mais voilà, le comité des fêtes a souhaité quand même, en décalant à septembre et à demain, de pouvoir maintenir cette fête qui est importante sur le lien social de cette commune.
Il y a autre chose qui se passe à Jambeville, ce sont les ateliers sport et santé pour permettre à une certaine population, notamment atteinte maladie, ou en tout cas permettre à une certaine tranche de population de pouvoir faire du sport pour leur santé.
Oui, c'est une action expérimentale, innovante, que nous avons mis en place à la demande du comité olympique départemental qui développe ce qu'on appelle le sport et la santé, donc sport sur ordonnance, pour des personnes pour lesquelles un parcours de santé est essentiel dans leur pathologie. Cette action, elle me vient, en tout cas, c'est après une discussion avec Catherine Arnoux, la maire de Chanteloup-les-Vignes, sur son territoire, ils ont mis en place ces ateliers depuis nombreuses années avec une certaine réussite et avec l'objectif de voir et de l'expérimenter en zone rurale, puisque là, on sait aussi que ces personnes avec pathologie ont encore plus de mal à avoir accès à une activité sportive. Donc, par ces ateliers, moi, j'ai souhaité que cette action ne reste pas simplement à l'échelle de la commune. Donc j'ai associé mes, en tout cas j'en ai parlé au maire des communes avoisinantes, et aujourd'hui donc ce sont donc des ateliers qui vont tourner sur les communes de Jambeville, mais Gaillon-sur-Montsian, Oinville, Linville, en Vexin, Breuil et Montalet, donc par à raison donc de deux séances hebdomadaires pendant 3 mois, et ensuite un autre groupe qui tournera sur les autres communes. Voilà, l'idée aussi c'est de faire déplacer les ateliers pour que les personnes qui sont dans les ateliers se rencontrent, puisque c'est souvent des habitants de ces différentes communes.
Le dernier thème de cet entretien, c'est la fusion et la mutualisation des moyens entre plusieurs communes. Alors l'an dernier, Jambeville avait signé des conventions de mutualisation de ses moyens humains et matériels avec la mairie de Montalet-le-Bois. Il y avait un projet de fusion qui est aujourd'hui avorté, on va y revenir. Mais d'abord, quel était l'objectif de cette mutualisation des moyens ?
Cet objectif de mutualisation, alors elle est très pratique, c'était de se dire on va mutualiser nos moyens techniques essentiellement. Nous sommes Montalet et Jambeville, on a chacun un agent technique, du matériel pour entretenir la commune et qui pouvait être complémentaire. Pour éviter d'acheter chacun du matériel, donc de pouvoir intervenir. Donc cette convention, elle est toujours, puisqu'elle est toujours active. De mutualiser les moyens matériels et nos agents qui travaillent 2 jours par semaine en mutualisation, donc ensemble, une journée pour Jambeville et une journée pour Montalet. Donc cette mutualisation, elle est issue d'une réflexion que j'avais eue avec l'ancien maire de Montalet, puisque entre temps il a démissionné, qui était l'idée de se dire il faut qu'on réfléchisse à ces problèmes de mutualisation, de fusion, parce que économiquement demain on n'est pas certain de pouvoir continuer à maintenir des services avec des budgets qui se resserrent, des dotations de l'État qui fondent comme neige au soleil. L'autre élément, de se dire que on est aujourd'hui dans un contexte où on préférerait, en tout cas, si ce n'est en tout cas sur si ce n'est réfléchir à se marier, en tout cas assumer un mariage plutôt que d'être forcé un jour par l'État à fusionner, ce qui arrivera d'ici quelques années. On constate bien que depuis une quinzaine d'années, tout est mis en place pour obliger les communes à fusionner si elles ne veulent pas disparaître par les baisses régulières des dotations de l'État et les compétences qu'on enlève à nos communes en les confiant aux intercommunalités. Donc voilà, cette mutualisation, elle est issue de ça, elle est issue de se dire, c'est une première étape pour se connaître, pour travailler ensemble, et ensuite engager des réflexions sur l'idée de fusion. On était bien sur l'idée que on n'allait pas acter nous maires, lui et moi, une fusion, mais que on allait engager une réflexion qui pourrait aboutir à une décision des deux conseils municipaux pour aller pour la fusion.
Mais là donc du coup, comme je disais tout à l'heure, cette fusion, elle est avortée, et en partie avec le changement à la tête de Montalet-le-Bois.
Oui, le contexte fait que entre-temps Philippe Pernette, le maire de Montalet, donc pour des dissensions, hein, je crois savoir, a démissionné. Donc aujourd'hui on est en attente des résultats de l'élection partielle qui a eu lieu début septembre, et donc de l'installation du nouveau maire pour revoir un petit peu voir comment on avance à la fois sur la mutualisation, elle est maintenue et dans quelles conditions. Faudra qu'on en tire un bilan, parce que là ça fait déjà un an. Pour être très honnête, aujourd'hui voilà, on n'a pas l'efficacité qu'on espérait en termes de gains, hein, gains économiques, mais aussi d'efficacité. Donc on va revoir tranquillement les choses avec le prochain maire. Et puis, certainement, mettre fin en tout cas à cette idée commune de réflexion sur la fusion.
Merci beaucoup Jean-Marie Ripard de nous avoir reçus dans votre mairie à Jambeville.
Merci beaucoup, merci à vous.
C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Juste après la pub, le retour des tubes et votre journal d'information locale à 8h30. Très bonne journée à tous, à l'écoute de BPM.
Les rendez-vous du Mantois, tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.